Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogieux.
Très bonne soirée, nouvel épisode du Club Sans Heure avec Jean-Charles Virlogieux. Bonsoir.
Bonsoir.
Notre invité milieu de terrain du Rodez Aveyron Football, Giovanni Hack, bonsoir.
Bonsoir à vous.
On va revenir évidemment sur la rencontre qui vous a opposé ce week-end face à Troyes. Match à rebondissement, presque avec du suspense finalement. Ce suspense bien malgré vous, je pense, Giovanni. En tout cas, quelque chose que vous auriez aimé, pourquoi pas, balayer plus vite plutôt que de se faire revenir dans cette partie. On va en parler justement. Est-ce que c'est selon vous, Giovanni, un match l'un des plus fous de la saison ?
Non, pas pour moi. On en a vécu plein d'autres. Je pense que c'est surtout un match où on a mal géré la dernière demi-heure et notre avance.
On rappelle 3-0 jusqu'à l'heure de jeu et à partir de ce moment-là, ouais, 3 ça. Qui revient dans la partie.
Ouais, c'est ça. On s'est peut-être vu, je dirais pas un peu trop beau, mais on s'est peut-être un peu relâché sur certaines situations. Qui fait que 3 revient à 3-2 et le match n'est plus même alors qu'on a une avance conséquente quand même. Donc je dirais pas que c'est un match fou, mais plus que c'est un match qu'on a mal géré sur la fin.
Presque 20 minutes hein, avec ce score de 3-2 puisque 3 a marqué juste après la 80e minute de jeu.
Ouais, on va revenir effectivement en détail sur le scénario et les rebondissements de ce match qui a commencé avec déjà beaucoup de situations de part et d'autre. C'est vraiment parti sur les chapeaux de roue, mais avec un bémol, il a fallu attendre longtemps pour avoir un tir cadré, même si celui de Tahirik en début de match qui passe à ras du deuxième poteau, là, elle est peut-être bien déviée et aurait mérité un corner. En tout cas, donc officiellement, il a fallu attendre le 11e tir du match et il était pour 3 pour avoir un tir cadré. C'était sur une occasion dans le dos de la défense. Il a fallu du temps pour régler la mire dans ce match, vous diriez, Gio ?
Je pense que sur les 20 premières minutes, on a énormément de situations sur des récupérations hautes. Mmh. Où on n'est pas assez juste dans le dernier geste, la dernière passe. Et ce qui fait que, comme vous l'avez dit, on a mis du temps avant de cadrer notre premier tir.
Mmh. Rodez qui a effectivement pris le parti de jouer haut dans ce match. Et l'occasion troyenne dont on parlait, c'en est un peu la conséquence. Est-ce que c'est un parti pris risqué, mais nécessaire de jouer si haut finalement ?
Risqué, oui, mais c'est un peu notre philosophie, notre façon de jouer. Sur quelques matchs, on a un peu plus attendu et on a plus subi les choses. Là, on avait pris le parti d'aller les chercher, de leur poser des problèmes sur ce plan de jeu-là. Donc ça a bien marché puisqu'on a récupéré pas mal de ballons et on aurait pu se procurer beaucoup plus de situations si, comme je vous l'ai dit, on aurait été plus juste dans le dernier geste et l'avant-dernière passe. Mais c'est aussi le petit risque à prendre quand en face, il y a des joueurs de qualité puisqu'ils ont des joueurs de qualité. Et quand ils ont réussi à sortir une ou deux fois bien le ballon, on a couru vers notre but et on a concédé des occasions. Mais c'est le risque et c'est ce qu'on voulait faire et on l'a assumé complètement.
Ouais. Alors la récompense, elle va finir par arriver juste avant la pause sur une action éclair conclue par Lorenzo Rajo. Il y a un trou de souris et il arrive à le trouver à cette distance du but et à ras du poteau. Il le verra s'il y a un trou de souris. Il ne faut absolument pas lui laisser l'occasion à Lorenzo Rajo. Pied droit, pied gauche, aucune importance. C'est un véritable, dans cette situation-là, dans cette configuration de frappe, c'est un vrai sniper quand même.
Luch, il a une qualité technique au-dessus de la moyenne. Donc on sait que dans les 30 derniers mètres, il peut faire la différence, que ce soit par la frappe ou par la passe. Nous, personnellement, on n'est pas très surpris. Après, comme vous l'avez dit, il avait peu de place en plus du pied droit. Donc c'était pas simple, mais il a les qualités pour, donc ça nous surprend pas spécialement.
Bon, le plus surprenant, c'est évidemment qu'un gaucher tire pied droit. Ça, ouais, par contre, c'est surprenant.
C'est ça. Après, je pense qu'il a voulu, parce que sa prise de balle, elle est vraiment pour s'emmener sur le pied droit, puisque le ballon vient de la gauche. Donc, je pense que c'est voulu et ça a fonctionné. Donc,
ouais, ça a réussi.
Et il adore être comme ça, dans l'alignement d'un trou de souris, que ce soit près d'un poteau comme ça. C'est presque... Là, il y a une vraie... On a l'impression qu'il se dit, là, le but est quasiment fermé, c'est bon pour moi.
C'est
là.
Pour moi. Ouais. Effectivement, 1-0 juste avant la mi-temps. Mais sur ce but, on n'a pas parlé pour l'instant de l'apport de Tahirik Harkonde, qui joue aussi un rôle déterminant. C'est lui qui récupère le dégagement de Sébastien Cibois, qui fait ensuite derrière l'effort de se remettre en mouvement. Il fait la passe décisive derrière. Il avait faim, non, Tahirik Harkonde ?
Ah, Tahirik, il a toujours faim. Tahirik, il est comme ça, il a beaucoup d'énergie à donner, des fois même un peu trop, contre, je me rappelle plus, il avait pris un carton rouge, je crois que c'était contre Laval, parce qu'il a beaucoup d'énergie, et des fois même un peu trop, mais c'est ce qu'on aime chez lui, il donne beaucoup, il fait beaucoup d'efforts, il travaille beaucoup, donc ça s'est senti sur ce match, pardon, mais il est comme ça depuis le début de la saison, et il a été récompensé, donc c'est très bien pour lui.
Ouais, il avait faim et il va se servir tout seul dans la gamelle, justement, juste après la pause, sur une énième séquence de pressing. Et c'est vrai que c'était juste que ça finisse par payer. Ça a été un des points récurrents de ce match-là, hein, qui a été un véritable voyage en interception dans les pieds des Troyens ou sur leur repli défensif. Vous aviez noté une faiblesse de leur part à ce niveau-là, parce qu'on vous a vraiment senti insister là-dessus.
Une faiblesse, je dirais pas une faiblesse, mais... Avec Charles, qui travaillait beaucoup sur les gardiens, il nous avait dit que leur gardien, même s'il était à l'aise, il était un peu trop parfois, donc il pouvait faire ce type d'erreur. Donc les attaquants l'ont compris. Donc quand ils ont pu, ils ont poussé. Donc ils l'ont fait et ça a réussi sur le but de Tahiri. Donc c'est cool.
Je rectifie juste sur Tahiri, par contre, c'est contre Dunkerque qu'il a pris deuxième carton jaune et donc synonyme d'exclusion.
Et c'était pour couper une action, non ? Il s'est pas un peu sacrifié sur cette action, je me rappelle plus.
C'était en tout début de deuxième période.
Ouais, c'était en début de deuxième période, il avait fait un tac, pareil.
Un excès d'engagement.
On va dire. Une débauche d'énergie un peu ouf, comme il a l'habitude.
C'était un poil sévère, mais... me semble-t-il, ce rouge.
Ouais, c'était maladroit.
C'est le premier carton qui est peut-être un peu sévère, parce que le deuxième, il est devant la surface de réparation, un peu excentré sur la pelouse du Stade Polignon. C'est plus le premier carton jaune qui est plutôt discutable. En tout cas, c'était lors de la 24e journée, voilà, face à Dunkerque.
Ouais, Giovanni prendra toujours la défense des joueurs qui prennent des cartons.
De ses coéquipiers.
En tout cas, il fallait aller au bout de ses idées pour Tahiric, bien contrer le dégagement du gardien sur ce but, ce qui a été admirablement fait. Et on pourrait dire que les mêmes causes ont quasiment produit les mêmes effets sur le troisième but. Vous prenez une interception, une boulette du gardien, vous mélangez le tout et vous avez le but de Wanis. C'est un peu ça, non ?
Ouais, c'est ça. Après, moi, sur ce troisième but-là, l'action, elle est bien menée. Après, je pense que Wanis, il rate un peu sa frappe. Mais c'est le lot des équipes qui sont un peu moins bien, manque de confiance. Je pense que le gardien se trouve un peu.
Il n'est pas exempt de ton reproche.
Non, il n'est pas exempt. Il se trouve complètement. Donc voilà, mais c'est le lot des équipes qui ont un peu moins de réussite. Donc ça ne va pas un peu trop dans leur sens. Mais l'action, elle est bien menée. Et puis, pour le peu que Wanis frappe... Au moins, il a tiré, puis c'est rentré, donc c'est bien pour lui.
Récompensé, effectivement. Et puis, on se dit qu'à 3-0, c'est plié, non ?
Plié, non, parce que dans le foot, ça va vite, mais on se dit qu'on a une avance conséquente, quand même.
Ouais.
Et qu'on doit aborder le match, la suite du match, je dirais plus sereinement, mais en gardant la même rigueur.
Sachant qu'il reste donc 30 minutes à partir du moment où Wanis donc marque le 3-0, on est aux alentours de l'heure de jeu. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes à ce moment-là? On se dit, est-ce qu'on va aller chercher le 4-5e ou est-ce que justement on reste tranquille sur nos bases?
On était dans l'optique de se dire que le goal average c'était important déjà et que n'était pas bien. Donc c'est aussi ça, respecter les adversaires, les enfoncer quand ils vont pas bien, c'est ça les respecter. Mais on avait dans la tête de se dire de rester solide et de jouer les contres, parce qu'on savait qu'ils allaient pousser pour mettre un quatrième, voire un cinquième but. Après, ça ne s'est pas passé comme ça, même si je pense qu'on a eu quand même deux, trois situations sur la fin.
Ouais, notamment un poteau de Kylian Corredor, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. C'est vrai, il aurait pu plier la rencontre. En tout cas, à 20 minutes du terme de la rencontre, Chavalerin donc qui frappe déviée, qui surprend un peu tout le monde. Pas grand-chose à faire finalement sur ce but-là, hormis sortir peut-être un peu le plus vite.
Je pense qu'on peut, on peut sortir plus vite et éviter ce tir-là. Après, il est contré, je pense pas que ça peut faire quoi que ce soit.
Mais je pense sur une frappe déviée, c'est toujours très compliqué pour un gardien.
C'est compliqué, mais je pense que c'est plus sur le deuxième but où on doit faire preuve de plus de réactivité sur le coup de pied arrêté. Pour moi, il est beaucoup plus évitable que le premier.
Et oui, c'est vrai que 3 va s'offrir vraiment les moyens d'espérer en revenant à 3-2 sur un corner. Donc, après la frappe de mule de Chavalerin, on va dire, c'est Dong qui est venu sonner les cloches en ce week-end de Pâques. Au-delà des séquences des buts, effectivement, où on peut s'interroger sur sortir sur le porteur du ballon, est-ce que vous pensez quand même qu'il aurait fallu, on en parlait il y a quelques instants, casser le rythme à 3-0 en fait ?
Ouais, je pense qu'il fallait casser en gardant un peu plus le ballon sur certaines phases de jeu, quand on l'avait un peu plus haut, ou en faisant quelques fautes intelligentes. C'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs entre nous après le match. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et je pense qu'après le 3-2, on a réussi à quand même garder les têtes bien droites et à rester solide sur les 10 dernières minutes. Mais ouais, on s'est fait entre guillemets un peu peur tout seul. Donc c'est bien d'éviter ces choses-là. Mais on est une équipe qui aime bien le suspense.
C'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut savoir gérer ses temps faibles, mais là on a presque l'impression que c'est savoir gérer ses temps forts, parce que vous avez vraiment, ça s'est vu, voulu continuer d'imprimer un rythme de malade quoi sur ce match à 3-0. Vous étiez euphorique presque.
Bah, comme je vous l'ai dit, on s'est dit que c'était important le goal à Verrage, et puis dans nos têtes, c'est respecter l'adversaire, c'était aussi ça, continuer à jouer de la même manière. Donc on avait dans l'idée d'aller marquer encore des buts.
Est-ce que justement cette débauche d'énergie constante, d'aller tout le temps vouloir apporter le danger sur l'équipe adverse, ça ne peut pas se retourner contre vous, un peu comme à l'image de cette rencontre face à Troyes, avec éventuellement, bon, le score de 3-0, c'est quand même assez confortable, on va dire, mais on ne sait jamais, s'il n'y avait eu que 2-0, Troyes aurait pu revenir dans la partie et on se serait posé d'autres questions, pas forcément les mêmes en tout cas.
Ouais, c'est ça, parce que quand on use beaucoup d'énergie comme ça, ben derrière on a des temps faibles qu'il faut savoir bien gérer. Mais c'est notre football. On a une équipe très jeune qui a envie d'aller marquer des buts, qui se porte beaucoup vers l'avant. Donc
c'est un duel de jeunes hein, d'ailleurs entre Troyes et Rodez. C'était les deux équipes les plus jeunes de ce championnat de Ligue 2.
Ouais, c'est ça. Et après, comme je vous l'ai dit, on assume le fait de prendre des contres de temps en temps ou d'être parfois désorganisé puisqu'on a beaucoup de dépassements de fonctions. Mais c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on aime faire. Donc,
on reste... Quand vous dites j'assume, c'est le groupe ou c'est le coach compris ?
Non, on assume. Je parle du staff, de l'équipe, des joueurs, on est tous ensemble.
Oui, tout le monde est au courant de la stratégie adoptée. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une rébellion sur le terrain en disant on y va quoi qu'il.
Ah non, c'est... On est ensemble, on fait ce qu'on fait, on le fait tous ensemble et c'est comme ça depuis le début de la saison.
Est-ce que c'est un match qui peut, entre guillemets, hein, parce que tout va bien pour Rodez, hein, on va pas noircir le tableau, hein, mais peut servir d'enseignement, se dire là on a touché à quelque chose où il y a un moment où il faut savoir baisser le rideau, fermer un peu la boutique comme on dit.
C'est un match qui, enfin je dirais que c'est une deuxième mi-temps surtout qui peut nous servir, comme vous l'avez dit. Nous apporter dans le sens se dire que il faut parfois gérer les matchs différemment. Ça veut dire savoir couper le rythme, être un peu plus intelligent, plus mature aussi. Donc c'est un match qui va nous servir, mais faut oublier que ça reste une victoire à l'extérieur quand même.
Bien sûr.
Donc voilà.
Alors Didier Santini a confié après le match qu'il fallait pas être cardiaque. Vous lui en faites voir, hein, votre coach.
Ouais, mais il aime bien ça.
Il a même pas pu gueuler à la mi-temps d'ailleurs, parce que ça, il aimait bien à une époque. Mais c'est compliqué là de recadrer les choses à un quart d'heure, 10 minutes de la fin. Dans ces cas-là, du coup, il y a quelqu'un qui prend la parole sur le terrain. À 3-2, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain finalement? Quelqu'un qui a parlé.
Ça va très vite quand on se rend le but. Le jeu s'arrête pas, ça continue, etc. Mais entre nous, oui, on se parle, on se dit de se calmer, de faire les choses comme on les fait, de pas déjouer non plus. Ça va très vite, mais on essaye quand même de se dire les choses, puisqu'on est une équipe qui s'entend bien, on s'entend tous bien, donc on n'a pas de mal à se dire les choses d'une manière positive, je dirais. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Et puis comme je vous l'ai dit, après le 3-2, je trouve qu'on a quand même surété solide. Les entrants nous ont apporté nous ont fait du bien, pardon. Donc, on a essayé de se dire les choses et pour regarder le résultat malgré tout.
Et du coup, on se regroupe, c'est ça? On se dit, attendez les gars, à 3-2, on arrête les conneries ou...
Ouais, c'est exactement ça.
Le numéro 24 du Rodez Avant Football, qui est notre invité Giovanni Hag dans ce Club Sans Heure, en ce mardi soir. Vous connaissez le rendez-vous, vous êtes déjà passé dans nos studios, vous connaissez ce rendez-vous-là.
Je n'ai pas dit que tu étais un con, hein. Je dis que globalement la question elle est con.
Et évidemment le rendez-vous de la question à la con.
Ouais, ça tombe bien que vous soyez là Giovanni, parce que votre présence nous permet de prendre des nouvelles de votre santé. Vous avez été blessé à la 17e minute de ce match. Est-ce que ça va mieux? Tout est rentré dans l'ordre?
Alors, j'étais pas blessé.
Ah oui?
C'était fait exprès, c'était prévu.
Oui.
C'était pour que.
C'était l'instant ramadan.
Voilà, c'était pour que les musulmans puissent rompre leur jeûne.
Ouais, le iftar, hein, d'ailleurs, c'est ça le nom du repas qui permet de rompre le jeûne au coucher du soleil. On en avait parlé il y a quelques semaines dans le mag, après la grave blessure aussi de Sébastien Cibois lors du match contre Grenoble. Et on s'était aperçu que plusieurs interruptions de ce type avaient eu lieu sur les pelouses de Ligue 2 pour permettre de rompre ce jeûne. Souvent avec le gardien, d'ailleurs, on avait vu, parce qu'il ne peut pas sortir. Hein, vous aviez noté ce point de règlement, Corentin. Là, c'est tombé sur vous cette fois-ci.
Moi, je me suis proposé de le faire puisque je me suis dit que Seb l'avait fait. S'il le refaisait, on ne savait pas trop comment l'arbitre pouvait le prendre. Et moi, j'ai proposé de le faire puisque j'étais strappé sur les adducteurs, etc. Je me suis dit, peut-être que ça peut passer, j'ai une petite gêne.
C'est surtout qu'un joueur au milieu de terrain est plus susceptible de prendre un coup, même dans le premier quart d'heure. Donc, on peut se dire, là, j'ai pris un petit coup, j'ai le temps de reprendre un peu.
C'est presque inquiété.
Il faudra le faire par contre un peu plus tard, à partir des prochaines rencontres. Changement d'horaire oblige, ça sera à partir de 20h pour casser ce fameux
sur
ramadan.
Sur le dernier match, oui, parce qu'après je crois que le ramadan sera terminé, mais il y a encore un match effectivement.
Dernier match
ce week-end, il me semble, effectivement.
Ça va être long.
Ça sera donc en deuxième période. C'est vrai que ça va être assez compliqué et délicat pour ceux qui pratiquent évidemment ce ramadan. Il va falloir évidemment tout tenir toute une première période sans manger et sans boire, et on sait que c'est pas si simple que ça.
Ouais. On s'est demandé si le fait que ce soit un joueur de champ, c'était aussi peut-être parce que on s'était aperçu que finalement, lors de la journée où effectivement on a vu tous ces gardiens interrompre le jeu, les arbitres avaient été assez réceptifs.
C'était pas vraiment dans ce sens-là. Hein. Moi, je me suis plus proposé parce que je sais que des fois, il y en a qui n'aiment pas trop prendre ce risque-là.
Ils ont peur d'être
avertis. Et l'arbitre vous a rien dit?
Non, il m'a rien dit. Non, je lui ai dit que j'avais un peu mal aux adducteurs. Et puis voilà, je suis rentré 10 secondes après. Donc
oui, il n'a pas tardé à vous faire rentrer, effectivement.
Oui, voilà.
Non, mais il y a des arbitres qui comprennent.
Je pense qu'il a compris.
Je pense que ça dépend des arbitres.
En plus, Rudy Buquet est quand même expérimenté. Et on sait que ces pauses que donc la Fédération française, on l'a déjà dit il y a quelques semaines, n'a pas voulu institutionnaliser, existent en Angleterre. On l'a même vu il y a quelques jours entre Aston Villa et Wolverhampton. Là, ce sont les arbitres, du coup, qui prennent l'initiative de décréter une pause fraîcheur. C'est pareil aux Pays-Bas. Et ailleurs, effectivement, les arbitres saisissent une interruption du jeu pour blessure véritable ou pas, pour permettre ce ravitaillement. Ça existe depuis plusieurs saisons, en fait. Ça n'a pas été inventé cette année. Il y avait une vidéo d'un match de Bundesliga qui était devenu viral au printemps 2022 entre Augsbourg et Mayence. Là, Rudy Buquet, effectivement, il n'a pas fait de difficulté. Il y a de grandes chances qu'il ait compris ce qui se passait. Encore un grand nom, tiens d'ailleurs, au sifflet pour arbitrer Rodez, arbitre international qui a plutôt l'habitude d'officier en Ligue 1. Vous êtes gâté en ce moment. Il faut y voir peut-être l'impact de votre classement, non ?
Peut-être. Je me suis posé la même question quand j'ai vu le nom de l'arbitre. Mais après, nous, ça nous importe peu. Tant qu'on a un arbitre et qu'il fait le travail, c'est le plus important.
Mais un arbitre, on va dire, expérimenté, fera peut-être moins d'erreurs. Normalement, c'est un peu comme ça que ça marche. En tout cas, le classement, tiens.
Il peut aussi avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il a l'habitude de s'appuyer sur la VAR qui n'existe pas en Ligue 2.
C'est vrai. Vu comme ça marche la VAR en ce moment. Mais c'est vrai qu'effectivement, il faut savoir gérer sans la VAR. Le classement, parlons-en, parce que cette victoire, elle vient bonifier celle que vous aviez acquise avant la trêve contre Grenoble. Elle vous permet de consolider votre cinquième place. Derrière, il y a toujours du monde, mais quand même avec un écart qui s'est creusé, il ne reste que Caen qui tient la cadence pour le moment, à un point de vous. Caen que vous irez bientôt affronter. Alors ça, on en salive d'avance. Et puis devant, la quatrième place que vous observiez encore avec des jumelles il y a quelques semaines, elle est désormais à 2 points, puisque Laval connaît un nouveau coup de mou. De quoi continuer d'avoir des objectifs élevés en cette fin de saison, tout en gardant évidemment les pieds sur terre. Et c'est ça tout le défi qui continue de se présenter à Rodez. Votre coach surveille l'état d'esprit du groupe comme le lait sur le feu. Écoutez ce qu'il en disait l'autre jour avant le match.
De temps en temps, il faut les laisser parler. Moi, j'entends moins, c'est plutôt mes adjoints. Devant moi, ils ne parlent pas trop. Ils savent comment ça peut partir. J'ai tellement de respect pour le sport et le foot. Et dans tous les sports, ça va tellement vite. Vous êtes au tennis, vous avez 2 balles de match pour vous, vous perdez en 5-7. Le sport de haut niveau, c'est aussi la beauté, c'est ce que j'aime dans le sport. C'est que tout peut aller très vite. Si on veut continuer à se donner du plaisir, à donner du plaisir aux gens, à faire un spectacle, à s'éclater, on ne va pas gagner 9 matchs. Par contre, il faudra être hyper rigoureux, concentré, être dans nos principes et rien regretter. Voilà. Si on ne doit pas y être, et si on a fait le job, c'est qu'il y avait meilleur que nous à ce moment-là et qu'on a appris encore et qu'on en sera meilleur l'année prochaine. Mais si là, il s'enflamme en me disant « Oh, c'est bon, on est cinquième », on va le rappeler que c'est qu'un classement à 9 journées de la fin.
Je sais pas qui limite quand il dit ouais, c'est bon, on est cinquième. Quand il explique, ils en parlent pas trop devant moi parce que ça peut partir vite. Vous avez un exemple?
Non, pas spécialement, mais comme il l'a dit, il est très très comment dire, il est très focalisé sur le fait que ben dans le foot ça va très vite, comme il vous l'a dit. Donc il préfère prendre match par match et faire les comptes à la fin de saison, comme il l'a fait comprendre.
Mais c'est pas évident pour lui non plus, hein, parce qu'il nous expliquait qu'il voulait pas non plus parler de maintien pour rester ambitieux. Il trouvait que le maintien, c'était un objectif un peu réducteur. D'ailleurs, on peut partir du principe que Lorenzo a marqué le but du maintien, vraisemblablement.
Oui, je pense que le maintien, bah, il faut être réaliste aussi, je pense que le maintien, il est acquis. Mais comme vous l'avez très bien dit, il faut rester l'épée sur terre. Ce qu'on fait, c'est bien. Mais il faut le faire jusqu'à la fin de la saison, parce que si on fait tout bien, entre guillemets, jusque maintenant, et qu'on se relâche pour mal finir jusqu'à la fin de saison, bah, ça aura, entre guillemets, servi à pas grand-chose.
Donc, ça viendra ternir un peu, effectivement, le bilan. Bien
voilà,
sûr.
C'est ça. Donc l'objectif, il est match par match, week-end par week-end. Et on verra bien ce que ça donnera jusqu'à la fin de la saison.
En tout cas, 12 victoires, me semble-t-il, en Ligue 2. C'est une première pour Rodez. Et le maintien, même si c'est virtuel, évidemment, hein, sait-on jamais s'il se jouait à 47 points, le maintien. Mais enfin, le maintien acquis virtuellement à la 30e journée, c'est évidemment aussi une grande première pour Rodez.
46 points au moment où on se parle, effectivement, pour Rodez. 5e, 12 victoires, 10 matchs nuls, 8 défaites pour le ratio complet. On en a parlé avec votre coach de la barre des 50 points. Est-ce que c'est un objectif, cette fameuse barre des 50 points?
Bah, aujourd'hui, oui.
Parce qu'il a dit que 50, c'était un beau chiffre.
Bah, vu le nombre de points qu'on a aujourd'hui, oui, c'est un objectif. J'espère qu'on sera même à plus, mais il faut travailler pour. Et comme je vous l'ai dit, on verra bien à la fin de la saison où on sera. Mais le plus regrettable, ce serait d'avoir des regrets, justement. Donc,
D'avoir fait tout ça pour rien?
Voilà, c'est ça. Donc,
okay. L'objectif des 50 points, aujourd'hui, oui, ça c'est une réponse intéressante. Dans le vestiaire, si on a vu quelques séquences passer, notamment à l'occasion du 100e match en Ligue 2 de Bradley d'Angers, votre capitaine, justement, il a parlé d'un objectif. On n'arrive pas à savoir lequel, parce que le coach aussi. Mais vous voulez bien nous dire ce que c'est, hein?
Ça, c'est les secrets du vestiaire, ça.
Ouais. On vous a vu chambreur, en tout cas, dans cette vidéo. Hein.
Ah, moi, toujours. Toujours.
Sur les vidéos qui sont disponibles sur les réseaux sociaux du RAF, hein, évidemment, du club. On vous a vu chambreur. D'ailleurs, à propos de ce maillot, il a été payé ou pas? Parce que c'est vous qui devez poser la question.
Non, c'est... J'aime bien chambrer, Brady il aime bien ça aussi. Donc
c'est bon enfant.
Voilà,
on rassure tout le monde, c'est bon enfant.
On a vu que le sac d'ailleurs, donc c'est un maillot avec le chiffre 100 derrière, c'est ça?
Ouais,
le nombre
100,
ouais,
c'est ça.
Vous n'avez pas vu la petite photo publiée pour la victoire?
Non,
vous avez vu que
je regarde
que
les vidéos.
Oui, c'est ça, vous avez vu que la vidéo. Allez, on se projette avec le prochain adversaire de Rodez, cette fois-ci à Paul Lignon.
Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogieux.
Avec Quevilly, l'actuel 19e de Ligue 2, 28 points en 30 journées. Quevilly, l'équipe finalement anti-spectacle par excellence, 3 fois 0-0 sur les 5 dernières rencontres. 2 victoires en 12 matchs depuis le début de l'année 2024, autant vous dire que c'est pas l'équipe en forme. Depuis le début du championnat, chose rarissime, ils ne sont jamais sortis de la zone rouge. Les joueurs de QRM qui, depuis la deuxième journée, sont dans cette zone-là, toujours entre la 20e et la 17e place. Leur meilleur classement, c'était donc 16e avant le coup d'envoi de la première journée.
Mentalement, ça doit quand même être usant.
Ça doit être dur. Et pourtant, dans les stats, il y a des bons joueurs. Hein. Sambou Soumano, l'ancien de Rodez, joueur prêté par Lorient, qui fait plutôt une bonne saison. 11 buts à son crédit, qui est aussi l'un des joueurs les plus utilisés. Plusieurs joueurs blessés. Delorier Chaubet, le milieu de terrain prêté par Bordeaux. L'expérimenté de 37 ans, Alexandre Bonnet, sont sur la touche. Nadjib Tissé, également le défenseur blessé. Dans l'effectif, 16 joueurs sont arrivés soit l'été dernier, soit l'hiver dernier. Sur les 30 joueurs utilisés cette saison. À titre de comparaison, Rodez, c'est 23 joueurs utilisés, 11 arrivés durant la saison, soit à l'été, soit à l'hiver. Olivier Chouafny a cédé sa place à Jean-Luc Garcia en janvier dernier. Ça va donc pas forcément mieux, à peine un point pris en moyenne et ça sera pas suffisant pour se maintenir. Une fin de saison délicate avec des adversaires comme Auxerre, Saint-Etienne, Amiens, ou encore Rodez. Côté confrontation directe, 7 rencontres entre Rodez et Quevilly, 3 victoires de chaque côté pour Rodez et pour QRM, 1 nul. Rappelons qu'à l'aller, Giovanni, Rodez s'était incliné 3-1. Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche ?
Un sentiment de revanche, je sais pas, mais quand on est sportif de haut niveau, on se dit que prendre 0 points face à une équipe sur 2 matchs, c'est pas entre guillemets concevable. Donc, bien
et sûr, une équipe qui joue dans l'absolu pas le même championnat, on va dire.
Pas le même championnat, mais une équipe qui aura tout autant faim que nous, puisqu'ils jouent en leur survie,
ouais, tout à fait,
en Ligue 2 et nous, on joue autre chose. Donc, ce ne sera pas le même objectif, mais la détermination sera la même des deux côtés, je pense. Et nous, comme vous l'avez dit, on a un match aller à faire oublier.
Légèrement décroché, hein, d'ailleurs, cette équipe de Quevilly, 19e au moment où on se parle, qui a 5 points de retard sur Concarneau, 18e.
Ouais.
Donc il va falloir combler ce trou rapidement, et c'est vrai qu'ils doivent avoir des ambitions, évidemment, pour aller chercher ce maintien.
Il lui faudrait des points, effectivement, à cette équipe de Quevilly, mais on a quand même un peu le sentiment que c'est une équipe qui va venir pour vous attendre, non ? Est-ce que c'est le genre de scénario que vous envisagez ?
Honnêtement, moi, je connais très bien Jean-Louis Garcia, avec qui j'étais à Nancy. Et nous, on n'avait pas spécialement pour autant l'habitude d'attendre les adversaires. Donc, c'est pour ça que moi, de mon point de vue, je ne sais pas trop dans quelle idée ils vont venir. Je sais juste qu'ils vont avoir une détermination très haute. Donc, il va falloir être prêt.
Après, ils sont dans une situation délicate. Donc, ça peut aussi différencier les points de vue que l'on peut avoir sur chaque équipe. Vous avez joué avec lui, avec Nancy. Là, il est dans une situation opération maintien, tout simplement.
On l'était aussi à Nancy.
C'est vrai, mais est-ce que la philosophie, lui, il est arrivé en cours de saison, ça peut aussi...
Oui, c'est vrai, ça joue, mais moi qui l'ai eu à Nancy, c'est un coach qui connaît très 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 bien le championnat. Nous, par exemple, à Nancy, l'année où Clermont et Troyes montent, quand ils ont surclassé tout le monde, en 15 jours, on allait mettre 5-1 à Troyes et on a gagné contre Clermont à la maison. Donc c'est le coach par excellence qui sait, entre guillemets... aller embêter les gros, si je puis dire.
Et vous en êtes devenu un peu...
Une équipe du haut de tableau, quoi.
Ouais. C'était un match qui avait une gueule de confrontation directe. Match pour le maintien sur le papier au début de la saison, ouais, mais c'est plus du tout le cas.
Ouais.
Mais intéressant, donc. Méfiance.
Toujours.
Méfiance vis-à-vis du coach Garcia et de ce qu'il va peut-être préparer pour vous. En tout cas, pour ce match, Eric Van Den Abel sera-t-il dans le groupe ? C'est pas sûr encore, mais son retour se précise avec notamment en ligne de mire l'enchaînement de 3 matchs qu'il y aura après la mi-avril, Auxerre, Paris FC, Concarneau. Écoutez ce qu'en dit votre coach Didier Santini.
Non, pas là, je le dis honnêtement, mais par contre potentiellement bientôt. Parce qu'il a cette expérience et je veux qu'il... Et tu t'aperçois que chaque semaine, tu retrouves sa vigueur, tu retrouves le Vidic qui va au combat, au charbon dans les duels, et il travaille super bien, donc il faut qu'il continue comme ça à l'entraînement, et s'ils le voient tous comme ça à l'entraînement, j'espère que derrière ceux qui jouent en ce moment, ils se disent « Ouh, il faut que je sois très très bon », ce qui arrive. Parce que je pense que là, on aura besoin de pas mal de monde, pour si on veut bien travailler, et surtout que ça enchaîne derrière, tu as toute semaine à 3 matchs, et après tu rejoues le vendredi. Donc Concarneau, donc ça va aller très 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 vite ces 6 derniers matchs. Donc on y pensera. J'ai demandé au staff déjà et à Thomas de commencer à réfléchir comment on va travailler, comment va se passer la semaine, comment tout ça. Comme je le vois aujourd'hui, Eric, j'espère. Mais comme j'ai dit, s'il ne rentre pas, s'il ne joue pas, à un moment, c'est que les autres ils ont été forts et qu'on sera très haut. Mais peut-être qu'à un moment, il faudra, dans un match hyper important, il faudra Vidic, Eric Van Den Abel, il faudra son expérience, il faudra ça. Le mec qui met la tête de partout. J'adore.
Ouais, voilà. Ah, il l'aime bien, Eric Van Den Abel.
Vidic, c'est son surnom à l'entraînement aussi ou...
Ce son, je sais pas, mais moi, il me fait penser aussi à Vidic.
Ouais, même physiquement, c'est vrai qu'il y a un petit...
Dans l'attitude, ouais. Même physiquement aussi.
Un peu la même coupe.
C'est, ouais, c'est un peu le joueur qui met la tête partout, comme le coach l'a dit.
Ouais. Et ça sera important. Ça. Alors, quand il disait non, Didier Santini, c'était pour le match de 3. Donc, pour ce week-end ? On ne sait jamais, hein. Mais effectivement, la clé, c'est surtout pour l'enchaînement des 3 matchs. Ça sera important, justement, d'avoir de la concurrence, peut-être pas à tous les postes, mais le plus de concurrence possible pour garder ce groupe à fond.
Oui, c'est ça. On a besoin de tout le monde pour se tirer vers le haut, ceux qui jouent pas. Tout le monde va être amené à jouer, à aider l'équipe. Donc tout le monde est important. Et Eric revient très très bien, il s'entraîne très bien. Il a joué avec la réserve, il me semble. Mm-hmm. Donc bien sûr que s'il continue comme ça, je pense qu'il sera amené à venir nous aider. Et on sait qu'il nous fera le plus grand bien.
On rappelle qu'il a été blessé dès la première journée face à Ajaccio. Petit point histoire, Vidic, pour toutes celles et ceux qui peuvent nous écouter et qui ne savent pas qui c'est. C'est un international serbe qui a joué notamment avec Manchester United et qui a été désigné en 2019 meilleur défenseur central de la Première Ligue.
De l'histoire.
Donc, belle référence.
Effectivement. On aura probablement aussi des nouvelles de Lucas Buades, qui ne se fera pas opérer finalement. Ça, c'est une des bonnes nouvelles de cette fin de saison. Il devrait donc être de retour. Reste à savoir exactement à quelle échéance. Il y aura une IRM demain et on pourrait le voir assez rapidement de retour dans le groupe. Là aussi, on parlait de concurrence. Ça sera important. Le match de QRM, ça sera quand même un bon test pour l'état d'esprit, hein, face effectivement à une équipe qui lutte pour le maintien, qu'on peut si on n'est pas très attentif,
prendre par-dessus la jambe.
Exactement.
Effectivement. En
tout
cas,
vous ne les prendrez pas par-dessus la jambe, Giovanni. Vous ne les prendrez pas par-dessus la jambe, QRM.
Non.
Coup d'envoi en tout cas à 19h sur cette pelouse du Stade Polignon ce samedi 6 avril. Rodez, Quevilly, 31e journée de Ligue 2 BKT. Giovanni, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Bonne semaine d'entraînement. On se retrouve samedi sur les terrains.
Exactement. Samedi.
Jean-Charles, bonne soirée.
Bonne soirée.
Totem, le club sang et or.